On écoute facile.
On écoute facile.
Una facile ascolta.
On écoute facile.
Ça ascolte, c'est au show.
Französisch leicht gemacht.
Calimera, Matheno, Kemilao, Gallica.
Yes, I would like to speak easily in French.
Apprenez le français.
Haditha volbim limba francese.
Let's learn French together.
Parles-tu français?
Parles-tu français?
Parle francese.
Je veux parler facilement le français.
Quelle chance de parler facilement le français.
Französisch auf leichte Weise. On écoute facile.
Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français, on retrouve Daniel Jeanne et Virginia Crespo.
Bonjour Virginia.
Bonjour Daniel.
Si nous partions ensemble en Provence.
Très volontiers.
Et du côté de Cavaillon et d'Apte, plus précisément dans le massif du Luberon, à proximité du célèbre et pittoresque village perché de Gordes.
Nous vous suivons Daniel.
Eh bien, nous allons visiter l'abbaye de Sénanque. Enserrée dans le creux de son vallon, l'abbaye de style roman Notre-Dame de Sénanque demeure comme un des plus purs témoins de l'architecture cistercienne primitive. Fondée au milieu du XIIe siècle, elle est toujours habitée par une communauté de moines cisterciens. Notre guide sera un spécialiste du Moyen-Âge, l'historien et académicien du XXe siècle, Georges Duby. Il est né en 1919 et mort en 1996. Pour Georges Duby, il faut péniblement découvrir Sénanque après avoir longtemps trébuché parmi les éboulis de la colline, dans la pleine aridité de juillet. L'œuvre d'art que la prédication bernardienne a fait naître débute par la traversée d'une épreuve, un désert. Allons donc à la découverte de l'abbaye en écoutant des extraits de « Intérieur, nuit » dans la collection dirigée par Philippe de Saint-Denis, Bayard édition 2008 et rédigée par Georges Duby. Un plateau immense, gris, sous un ciel blanc. Au nord, sur le revers, une échancrure. D'abord largement évasée, elle se resserre de gradin en gradin pour devenir d'un coup fissure, entaille étroite noire, gorge sauvage où les eaux, après chaque orage, bruyamment dévalent. En ce point précis, des moines se sont établis il y a 8 siècles. Des cisterciens. Ils se voulaient purs, à l'abri des corruptions du monde. Ils les fuyaient et s'enfonçaient toujours plus loin dans la solitude. Aride ici, en Provence, brûlée, minérale. Au seuil de la retombée, l'abbaye se tient ainsi comme en équilibre incertain, maintenue à toute force à la jointure du replat et de l'abîme, du clair et de l'obscur, du spirituel et du sensuel. Dans l'exacte position donc que Bernard de Clairvaux, leur maître à penser, assignait aux religieux, éclaireurs d'avant-garde. Eux-mêmes, encerclés, retenus, protégés par les abruptes qui bornent sur 3 faces leur domaine intérieur. Fixés, arrimés en ce point médian où les murs rugueux de la demeure qu'ils ont bâtie restent encore ancrés. Pourtant, en marche, conduisant la marche, l'ascension graduelle vers la vérité, vers la lumière. Lumière encore voilée, mais dont s'entrevoient plus haut les éclats aveuglants, torride. Par cette lumière, ils étaient aspirés, charnels comme nous tous, et dit saint Bernard, leur amour et leur désir commençant nécessairement par la chair, prenant donc appui sur l'assise opaque, sur cette dureté du calcaire brut où le monastère se trouve comme engoncé, émergeant à peine, indistinct, le gris de ses toitures fondu dans le gris des parois rocailleuses. Sauf un bref instant à la tombée du jour, quand les bâtiments claustraux déjà perdus dans le sombre, le couchant illumine l'un des versants du gouffre et certains soirs le fait flamboyer dans des rougeoiements d'amarante. En ce moment précis où la nuit circonspecte hésite à guérir la plaie du jour, avant qu'elle ne se répande, lente, inexorablement envahissante, montant depuis les fonds comme un épanchement des noires végétations dieuses, de lierres, d'arbousiers dont le ravin est encombré. La pénombre s'épaississant, les couleurs peu à peu s'exténuant, et la nuit, la grande nuit souveraine, installant enfin son règne dans la rumeur d'une multitude d'insectes.
Il faut préciser, Daniel, que l'ordre des cisterciens a été créé par Robert de Molhem au XIe siècle. Il voulait que les communautés monastiques appliquent avec plus de rigueur la règle de saint Benoît : humilité, charité, pauvreté. Et il insistera sur l'importance du travail manuel.
Savez-vous, Virginia, que l'origine du terme cistercien provient du mot ancien « cistel » qui désigne une sorte de roseau. L'une des premières abbayes de l'ordre Citeaux était implantée dans une région marécageuse non loin de la rivière Saône. C'est à Bernard, abbé de Clairvaux, que l'on doit le développement et le rayonnement spirituel de l'ordre cistercien au XIIe siècle. Pour Bernard, l'architecture des abbayes devait témoigner de la spiritualité des cisterciens et être une aide pour le cheminement intérieur des moines. Bernard a aussi défini les bâtiments nécessaires pour servir Dieu selon la règle. L'oratoire, le cloître, le réfectoire, le dortoir, l'hôtellerie et la porterie.
Voici un nouvel extrait d'Intérieur nuit de Georges Duby. Aucune architecture n'est plus résolument que la cistercienne retournée vers l'intérieur et vers la nuit. Les moines de cette observance étaient en effet des reclus volontaires. Ils avaient décidé de s'isoler tout à fait, de s'incarcérer. Ils firent autour d'eux le vide, un désert, où chaque jour ils partaient travailler dans les taillis, les essarts, et l'édifice qu'il regagnait le soir, le corps rompu, se ferme sur lui-même comme une prison. Nulle ouverture sur le dehors, sinon quelques fissures, le monastère est avant tout clôture, enceinte, rempart dressé contre les séductions du siècle et de ces regains de convoitise dont on doit se garder soigneusement. Parfait repli, afin que les hommes rassemblés la nuit entre ces murailles aveugles chassent tout souvenir des vanités extérieures pour ne plus considérer que le dedans de même. Aucune architecture non plus n'est aussi rigoureuse. Le monastère prétendait montrer l'image d'une cité parfaite et de la perfection la plus sobre. Ces structures donc reposent sur le carré, parce que pour lui, Bernard, Dieu est longueur, largeur, hauteur, profondeur.
Rien non plus ne doit détourner le moine de sa recherche de Dieu. La simplicité et même le dépouillement caractérisent l'art cistercien. Voici maintenant un troisième extrait de « Intérieur, nuit » de Georges Duby. L'homme qui librement quittait le monde, s'engageait, s'incorporait à l'escouade monastique, était censé vouloir s'élever de l'univers des sens à celui de l'esprit, et ce progrès, pas à pas, passait nécessairement, croyait-on, par l'usage de la raison. C'est ce que dit saint Bernard. Pour faciliter aux religieux ses frères le passage, il jugeait bon qu'ils fussent à proprement dit encadrés, et pour cela logés au sein de la quadrature. Et de surcroît, entre des murs nus, dépouillé de tout agrément de surface, saint Bernard le veut. Il exige violemment, il impose d'exclure toute figuration. Il condamne les images qui pourraient incliner la pensée à s'écarter de la voie droite, la distraire, la divertir, la dévoyer, et qui risqueraient, en des lieux apprêtés pour la méditation, la prière et le dépassement de soi, de ramener l'attention des religieux vers le sensuel, vers l'extérieur. On ne voit ici par conséquent que des signes géométriques combinant polygones et segments de cercle. Car la coquille, l'enveloppe, cette sorte de chrysalide où la communauté monastique s'est enfermée autrefois, attendant que secrètement, dans le silence, s'opéra la germination, la métamorphose, n'est pas totalement close. Elle devait ne pas être bloquée de ténèbres, puisque l'agent du transfert, l'intellect, requiert d'être éclairé. Dans Sénanque, massive, forteresse imprenable, caveau préparé pour que s'y poursuivent les fermentations de la grâce, de la lumière donc pénètre. Un peu de lumière. Elle survient principalement par le mi-temps, par ce ciel qui s'ouvre en plein centre de l'espace interne. Déversée sur un carré de terre au milieu du cloître, la lumière se répand depuis là par de larges arcades dans les travées latérales. Abrupte, mince bande aveuglante sur les dalles de la galerie sud, réduite à des reflets dans celle du nord, s'étalant au contraire à l'est, à l'ouest pénétrante, de toutes parts vivante, mobile, au fil des heures, révélant ainsi par la régularité de sa trajectoire la respiration profonde de l'univers. L'architecture disposait de telle sorte que parmi les allées couvertes enveloppant le foyer central, le long de ce promenoir aménagé pour que chacun des moines, livre en main, pût poursuivre le déchiffrement sans cesse repris de la parole divine, la lumière fut largement distribuée, une lumière naïve, franche, telle que Dieu voulut qu'elle jaillît au premier jour de la création. Quant au reste de la bâtisse, à son intérieur, il en constitue la part nocturne, volontairement ténébreuse. Car à l'homme de foi, qui s'évertuait à pousser plus avant, à traquer le sens de l'écriture, se laissant porter par ses versets, envoûté, grisé par elle et finalement transformé, il était salutaire de revenir par période à l'obscur, de se refermer plus étroitement, donc de baisser les paupières, retournant le regard vers l'intérieur et vers la nuit. Il convenait de se poster dans la pénombre à certaines heures, guettant, à l'écoute. Bruissement des mots, lu tout à l'heure à la lumière et maintenant remémoré dans le silence. Bernard de Clairvaux l'affirme, ce n'est pas à la vue qu'il faut se fier, c'est à l'ouïe. Pourquoi nous efforcer de voir ? Il faut tendre l'oreille.
Dans un autre ouvrage, Georges Duby précise « Le plein chant grégorien et la lumière sont les ornements de l'église où l'office liturgique développe les préliminaires d'une fête. » Et voici maintenant un extrait d'Intérieur nuit, donc l'ouvrage dont nous vous lisons quelques passages aujourd'hui avec Daniel. « Les murs du dortoir, du réfectoire, de la salle capitulaire » Les murs de l'église sont opaques, percés de fentes rares, resserrées. Et le jour, qu'elle laisse parcimonieusement filtrer, est lui aussi aussi brut, tout nu. Aucun apprêt. Pour Saint Bernard, la couleur est sensualité. Il la bannit des verrières. Un strict réseau de signes abstraits sur fond de grisaille. Blanc, noir, gris. En effet, dans le monastère cistercien, l'église est l'espace de l'attente, d'approches incertaines, de rencontres parfois brûlantes, mais fugaces toujours. D'autres moines, ceux de la congrégation de Cluny, avaient conçu leur église comme une grande halle toute parée, somptueuse, illuminée, la salle où le soir des noces les invités festoient. Alors que les cisterciens voyaient en la leur la chambre nuptiale, lieu secret, ombreux, préparé au plus intime de la demeure, au plus interne, pour la ferveur de l'étreinte. Au plus profond de la nuit nuptiale, toute noirceur s'abolit. C'est pourquoi l'intérieur des lieux conventuels est livré au pouvoir de la nuit. En son sein, une autre lumière est en germe, éblouissante. Lorsqu'ainsi se levait le premier souffle du jour dans le déclin des ombres, on éteignait la lampe du dortoir. Il n'en était plus besoin. La traversée périlleuse avait pris fin. L'épreuve s'achevait. La communauté s'acheminait alors de nouveau vers la croix du transept pour le chant de reconnaissance, de renaissance. Sortant, rénovés des immensités de la nuit, les moines voyaient, tournés vers les trois fenêtres absidiales, l'éclat de sa présence solaire chassait l'aurore et la nuit se résorbait, résorbait dans le triomphe du matin. Eux-mêmes, ils le savaient, n'en étaient encore qu'au seuil, à l'orée d'un tel triomphe. Mais ils ne doutaient pas qu'allait venir sous peu le vrai midi, le soleil immuable, la chaleur et la lumière accomplie, l'extermination des ombres, l'assèchement des marées, la fin de toute pestilence. Solstice éternel où le jour sera sans déclin, où il n'y aura plus d'extérieur ni d'intérieur, où il n'y aura plus de nuit.
C'est sur un extrait de chant grégorien que nous quitterons l'abbaye de Sénanque, ce lieu de beauté, empreint de spiritualité.